Bonjour et bienvenue dans Tapante.info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005 et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Allez, saison 3, épisode 20. On va commencer par évoquer le grand débat de ces derniers jours. Est-ce qu'il faut partir de WhatsApp pour aller vers Signal ou Telegram? Alors pourquoi on voudrait partir? Parce qu'en effet, on en parlait la semaine dernière, Facebook a changé les conditions d'utilisation de l'application et farfouille un peu plus dans les données. Il faut savoir qu'en France quand même et en Europe, on a la RGPD qui nous protège un petit peu. Donc c'est moins important ou moins grave entre guillemets que aux États-Unis ou en dehors. Sachant que quand même, si vous voulez partir de WhatsApp, il faut commencer à réfléchir à partir de Facebook et d'Instagram. Donc les alternatives, c'est Signal ou Telegram. Alors Telegram, il faut savoir que c'est quand même une boîte qui utilise des protocoles ouverts, mais quand même avec une propriétaire qui est un Russe qui habite à Dubaï, qui a promis qu'il ne vendrait pas la société ni les données des clients, mais qui a quand même évoqué qu'il allait devoir bientôt payer ses factures et que de la pub arriverait cette année. Du côté de Signal, c'est du full open source, c'est du full décentralisé. Donc on va dire que l'attitude, elle est un peu plus cool. Après, à voir si vous êtes prêt à prendre tous vos amis, vos familles et vos proches et les amener sur l'une ou l'autre des applications. Il faut un petit peu de détermination pour le faire. Autre sujet d'actualité, hein, c'est ce qui s'est passé sur Parler, donc le réseau social qui a hébergé pendant un temps les QAnon et l'extrême droite américaine. Donc Parler donc a été fermé au bout de quelques jours par Amazon, hein, qui a considéré que des risques liés à la sécurité perduraient sur le service. Et donc au bout de quelques jours, il a désactivé le service dont il opérait uniquement l'hébergement, hein, à ne pas confondre avec Twitter, Facebook ou Reddit qui avaient banni QAnon et Trump pour les propos qu'il tenait. Là, c'était vraiment... Ils ont justifié ça par une astuce liée à la sécurité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un pirate, un white hat, comme on dit chez nous, qui a piraté les archives de Parler pour en ressortir toutes les données qui étaient contenues, donc près de 57 teraoctets, donc 412 millions de fichiers, 150 millions de photos et 1 million de vidéos, quasiment 97-98% de la totalité des données qui se trouvaient sur Parler. Et à quoi ça sert? Bon, déjà, ça sauvegarde le réseau d'extrême droite, mais surtout, ça a permis, en donnant ces données à la police, d'arrêter pas mal de militants et d'avoir du matériel pour essayer de trouver les plus extrêmes des extrémistes d'extrême droite. Je ne sais pas si j'ai pas dit trop de fois le mot extrême, mais en tout cas, voilà, ça pose la question quand même de la justice, de l'équilibre, de la force des plateformes et de la sécurité des données, tout ça en un. En tout cas, voilà, c'est quand même un événement important dans la tech de savoir que ces données, il faut quand même, un, les protéger, y faire attention et se poser la question de la sécurité et de la liberté d'expression. J'avoue, on ne va pas rentrer dans ce débat politique, mais voilà, c'était pour vous dire, c'est une pirate qui avait trouvé une faille, qui depuis janvier était en train d'indexer ce contenu, qui a été aidée par la Archive Team, qui est un groupe aussi d'activistes de l'Internet qui cherchent à sauvegarder l'Internet. Donc voilà, c'était la petite news piratage de la semaine. Côté tech, la grande annonce, on va dire grand public de cette semaine, c'est quand même Samsung qui a révélé ses trois nouveaux téléphones. Donc c'est la haut de gamme, hein, de Samsung, c'est déjà la 21e itération du Galaxy. Donc on le retrouve donc décliné en trois formats, le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra. Donc le S21, c'est l'entrée de gamme, 800 balles, donc moins cher que l'entrée de gamme de l'année dernière sur le haut de gamme de Samsung. Un écran 6,2 pouces, ce qui le situe un peu plus grand que l'iPhone X, avec un appareil 12 mégapixels, avec pas mal de choses quand même intéressantes. On est quand même sur du dernier cri. Seule petite différence, l'écran réduit un petit peu par rapport aux versions de l'année dernière, ça arrive, mais c'est pour garantir l'adaptive refresh rate qui fait que l'écran peut passer de 40 à 120 Hz, donc qui permet de consommer moins d'énergie et de donner un affichage plus lisible. Après, on passe sur le S12 Plus. Donc lui, il est plutôt de la taille de l'iPhone 12 Pro Max, donc le grand dernier de chez Apple. Il coûte autour de 1 000 € en fonction des options. Et là, on rajoute un truc qui s'appelle la Ultra Wideband Radio, qui est en fait une nouvelle feature chez Samsung qui permet de contrôler des objets à distance grâce à un signal radio. Donc d'abord, ça va être pour retrouver les objets perdus, mais aussi demain, déverrouiller votre voiture. Enfin, en tout cas, rendre encore le téléphone encore plus central dans notre vie de tous les jours. Et enfin, il y a le Samsung S21 Ultra. Donc là, rappelez-vous, c'est un peu le successeur du Note. C'est un grand écran avec lequel on peut utiliser un stylet. Et donc, avec ses 6,8 pouces, il a une batterie aussi qui peut durer un temps fou, un écran avec une résolution dingue. Le pareil, le Adaptive Refresh Rate, hein, toujours pareil, ça c'est un des gros trucs de cette année. Et après, bien sûr, impressionnant, 108, un appareil photo 108 mégapixels large, et bien sûr une batterie de 5 appareils photo dans le dos de l'appareil. Et une caméra de façade de 40 mégapixels. En gros, vous pouvez faire les plus beaux selfies de l'univers. Donc voilà, pour 1250€, à partir de 1250€. Donc ce qui est intéressant, c'est que le positionnement de Samsung est bien sûr d'être en face d'Apple. Hein, on est vraiment dans le haut de gamme de la gamme Android. Donc voilà, c'était important pour Samsung de marquer le coup. C'était en pleine période là, de début d'année. Voilà, c'était intéressant à noter. En plein CES, alors qu'ils ne l'ont pas boxé dans le timing du CES. Donc voilà, intéressant en tout cas de voir que la compétition dure et que malgré les événements de difficultés d'approvisionnement, bah Samsung garde le rythme. Je l'évoquais avec Samsung, cette semaine c'était la semaine du CES All Digital. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes de ce programme qui en parleront, mais là pour faire un rapide bilan à la fin, donc la première chose c'est que c'est du All Digital, donc c'était pas à Las Vegas comme ça a lieu d'habitude. 2000 exposants, 212 keynotes, plus de 100 heures de vidéos, 140 stands français, et quand même un site internet pas du tout à la hauteur de l'événement, hein, vraiment assez décevant dans sa réalisation, dans son ergonomie, pas facile de suivre, hein. Heureusement que la presse avait beaucoup d'accès, que les Américains, notamment la presse américaine, a beaucoup creusé dans les infos. Une petite déception aussi, puisque finalement, les boîtes qui font parler d'elles sont celles qui ont les moyens d'embaucher des agences de RP, qui peuvent envoyer des mails, qui peuvent activer les réseaux autrement que seulement en étant sur place. Donc voilà, donc une édition, alors je vais peut-être parce que moi j'ai l'habitude de la faire en physique, mais un peu décevante, en tout cas une ergonomie que tout le monde aura dénoncée, en espérant que voilà, ça soit la dernière en All Digital. On peut noter donc plusieurs choses. La première chose, c'est l'absence de la plupart des GAFAM, puisque Google ou Amazon, qui étaient beaucoup présents dans l'édition physique, souvent par petites touches un peu partout, juste pour plus un stand bien sûr, mais qui étaient un peu présents partout, là, cette année n'auront pas joué le jeu, on va dire, du salon. Et donc voilà, sauf Microsoft qui était là, puisqu'il était le partenaire technique du site internet dont je parlais juste avant, qui n'était pas terrible. Alors dans les grosses tendances, hein, j'y reviendrai aussi, puisqu'il faut un peu de temps pour digérer tout ça, mais on peut quand même en tirer quelques grandes tendances. La première tendance, c'est bien sûr un petit peu la vie du futur. Donc on peut citer Samsung qui a montré deux robots, un robot qui est là pour s'occuper de vous quand vous n'êtes pas bien, qui connaît votre emploi du temps, votre état émotionnel et qui va vous conseiller de faire une petite pause au milieu de votre réunion de travail. Ou ce robot Handybot qui va être capable, de grâce à sa main robotisée, de ranger la vaisselle ou de mettre le couvert. Donc voilà, des choses un peu futuristes. Ou alors le frigo, pareil, qui va pouvoir analyser son contenu, commander automatiquement chez un magasin qui va pouvoir vous livrer grâce à son robot autonome. Et au moment où vous allez faire la cuisine, va vous proposer automatiquement sur le grand écran de la porte du frigo la recette avec le chef pour vous aiguiller et vous permettre de réaliser vos plats. Donc ça, on a vu pas mal de systèmes qui vont dans ce sens-là, de simplifier. Alors, c'est souvent un petit peu le fantasmagorique, mais c'est toujours intéressant. On a aussi du côté des écrans, pas mal de choses qui sont passées. Il y a LG qui a présenté des écrans transparents qui marchent vraiment très bien, de technologie OLED. On a aussi des écrans souples, et même un écran gamer qui permet d'être les deux, qui peut être souple et plat, enfin incurvé et plat, à la demande si on regarde un film ou si on joue à un jeu vidéo. Les écrans, ils ont cette tendance, hein, à être toujours plus grands, mais aussi toujours plus avec des meilleures résolutions. On a encore parlé beaucoup de la 8K, alors qu'on a un peu de mal à passer à la 4K. En tout cas, on a parlé beaucoup de la 8K. Des nouvelles technologies aussi sur les écrans LED qui permettent d'avoir des LED beaucoup plus petites et donc d'assurer de meilleurs contrastes et des noirs plus forts. Bien sûr, il y a une guéguerre là, entre tous les constructeurs, hein, LG, Sony, TCL ou encore Samsung, qui cherchent à avoir la technologie qui va vous faire plus plaisir à la rentrée. Je reviendrai aussi sur ces éléments-là dans le futur. On peut aussi noter la présence de l'automobile. Mercedes a fait le buzz aussi avec un très très grand écran à la place du tableau de bord. BMW a montré une intelligence artificielle capable de mener des conversations. Mais c'est quand même General Motors qui a fait le plus le buzz avec un système de taxi volant unipersonnel qui permet d'amener d'un immeuble à l'autre dans Los Angeles d'un futur très proche. Et l'annonce de 27 milliards de dollars d'investissement dans les années à venir pour sortir d'ici quelques années seulement 30 modèles électriques. Il propose aussi une nouvelle batterie designée avec LG qui va permettre d'atteindre les 900 km d'autonomie. Donc voilà, des très belles promesses. Et puis pour finir, Sono Motor, qui est un constructeur allemand, qui a créé un SUV qui, grâce à ses panneaux solaires, peut rouler 35 km. Donc voilà, des innovations qu'on a hâte de voir s'affiner. Une autre des tendances de ce CES, c'est bien sûr l'omniprésence du Covid et donc du coup des applications qui lui sont liées. Donc on a vu beaucoup de masques, des masques intelligents plus ou moins bien faits, des purificateurs d'air, des stérilisateurs. Enfin, il y avait toute une batterie d'appareils liés à améliorer la manière de se défendre contre le virus, mais aussi à améliorer son intérieur. Enfin, voilà. Il y a vraiment une grosse, grosse tendance, bien sûr, sur tout ce qui est télémédecine, soins à distance. Par exemple, il y a une société coréenne qui a quand même connecté un appareil qui permet de faire des tests et de savoir quelle est votre santé à Alexa. Donc tu peux dire, Alexa, suis-je en bonne santé? Et bien sûr, les données ne sont pas du tout envoyées à Amazon. Et après, pour finir, la petite tendance gaming. Donc on peut noter les nouvelles cartes graphiques de Nvidia pour les ordinateurs portables, toujours plus rapides. AMD aussi qui a annoncé ses nouveaux processeurs. Donc voilà, une très très large offre. Et mine de rien, CES qui aura bénéficié d'un vrai relais médiatique, malgré tous les défauts que j'évoquais en début. Donc voilà, on aura appris pas mal de choses. Les industriels ont pour la plupart joué le jeu, et c'était plutôt, plutôt intéressant. Encore une fois, je vous en reparlerai. Et puis pour finir, un record, le record de la semaine, c'est un Twitcher espagnol qui se fait appeler TheGrecFG, et qui s'appelle en fait David Canovas, je ne vais pas écorcher son nom quand même, il a un record. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à réunir 2,4 millions de personnes sur sa chaîne Twitch au même moment, en instantané. C'est un record, hein, jamais atteint. Donc 2,47 millions de personnes sont venues voir le stream de TheGrecF. Et pourquoi? Mais parce qu'il allait montrer et annoncer la skin à son image qu'a fait Epic. En effet, quelques streamers très connus, comme Ninja, dont on parle souvent, ont eu droit à leur skin dans le jeu. Et donc les fans étaient là au rendez-vous pour voir ce nouveau modèle, de bien sûr fait à partir de lui-même. Hein. C'est son double numérique qui était présenté. Et il a battu tous les records de la plateforme. Voilà, j'espère que ce programme vous a plu et on se retrouve bientôt.